journal Marc Fauvel. Bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, la charge d'Emmanuel Macron contre l'ONG Lifeline, dont le bateau attend toujours de pouvoir accoster à Malte avec 233 migrants à bord. Le président l'accuse d'avoir menti aux autorités, de faire le jeu des passeurs. Demain, c'est un sommet européen risqué qui s'ouvre à Bruxelles. L'Europe peut-elle enfin trouver la solution? Vous posez la question, Nicolas, dans 20 minutes à votre invité.
Il s'agit de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Vous pourrez lui poser des questions, dialoguer avec lui au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, des policiers et des gendarmes qui dégainent de plus en plus souvent leurs armes de service. Le nombre de tirs est en forte hausse d'après l'IGPN. La grève qui joue les prolongations à la SNCF, les départs des grandes vacances pourraient être perturbés début juillet. La pub qui n'en finit plus d'envahir nos boîtes aux lettres, 2,5 kg de réclames chaque année. Et puis la bande à Messi sur la route des Bleus. France-Argentine samedi, 8e de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus ont 3 jours pour se rassurer après leur prestation aux allures de purge hier face au Danemark. La France serait-elle en train de changer de ton dans la crise européenne des migrants ces derniers jours? C'est l'Italie et son gouvernement populiste qui était la cible d'Emmanuel Macron, accusé de cynisme et d'irresponsabilité pour avoir fermé ses ports. Mais hier soir, changement de cible, Emmanuel Macron s'est confié à la presse en marge de son déplacement au Vatican. Et les cyniques et les irresponsables désormais dans sa bouche, ce sont les responsables de l'ONG Lifeline, dont le bateau chargé de migrants doit accoster à Malte, un étrillage en règle de l'ONG allemande. Louise Baudet.
Lifeline fait le jeu des passeurs. Elle a coupé le signal et elle est intervenue en contravention de toutes les règles et des gardes-côtes libyens. Hors micro, le président français ne mâche pas ses mots à l'encontre de l'ONG allemande et dénonce une dérive. Au nom de l'humanitaire, il n'y a plus aucun contrôle. On fait le jeu des passeurs en réduisant le coût du passage. C'est d'un cynisme terrible. À peu de choses près, le discours du gouvernement italien. Le président du conseil Giuseppe Conte réclame une enquête pour s'assurer de la nationalité du bateau et du respect des règles de la part de son équipage. Un navire hors la loi, tranche le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Alors faut-il y voir le début d'une détente avec Rome après le bras de fer et l'escalade verbale de ces derniers jours? En tout cas, le président français a rencontré le chef du gouvernement italien lors d'un discret dîner au soir de son arrivée à Rome. Rencontre officieuse afin de respecter les usages diplomatiques vis-à-vis du Saint-Siège. Rome, Louise Baudet, France Inter.
Voilà le Lifeline qui doit toujours accoster à Malte dans les heures qui viennent. 6 pays européens sont d'accord désormais pour accueillir ses passagers. En tout cas, ceux qui sont candidats au droit d'asile, 6 pays dont la France, l'Italie et le Portugal. Et pendant que l'Europe affiche ses divisions aux États-Unis, l'opinion elle aussi est coupée en deux. Pour ou contre la politique migratoire de Donald Trump et sa tolérance zéro, une politique qui se ressent de l'autre côté de la frontière au Mexique avec le retour au pays des expulsés. C'est à eux que l'envoyé spécial de France Inter au Mexique, Olivier Poujade, a tendu son micro.
Anna Paola nous présente la dernière collection de son atelier de sérigraphie, l'une de ses créations, le t-shirt Fuck Trump.
C'est l'une de nos meilleures ventes.
Elle fait partie de la communauté des déportés, ces millions de Mexicains expulsés des États-Unis qui tentent de reconstruire leur vie au Mexique. Anna Paola a vécu 16 ans à Chicago sans aucun papier avant de se faire chasser il y a un an par cette tolérance zéro prônée par Donald Trump.
Nous aussi, on applique la tolérance zéro. C'est interdit ce qu'il fait. C'est un crime contre l'humanité, contre les droits de l'homme. On arrivait à séparer les enfants des familles en les traitant comme des criminels et en leur parlant comme à des animaux.
À l'autre extrémité de la société mexicaine, l'agacement vis-à-vis de Donald Trump est également palpable. Jorge Castañeda est un ancien chef de la diplomatie mexicaine.
Trump est un adversaire ou un ennemi du Mexique. C'est quelqu'un qui ne nous aime pas. C'est des insultes tout le temps. Racistes, voleurs, et c'est tous les jours.
Enrique Peña Nieto, l'actuel président mexicain, n'a jamais vraiment tenu tête aux voisins américains. Son successeur, qui sera élu dimanche, sera prié de se montrer plus ferme face au mépris de Trump. Mexico, Gilles Gallinaro, Olivier Poujade, France Inter.
Toujours à l'étranger, le jugement est tombé au Maroc, jusqu'à 20 ans de prison pour les meneurs de la contestation sociale qui avait agité le pays l'an dernier. Ils ont été condamnés par le tribunal de Casablanca pour complot contre la sécurité de l'État.
Il est 8h05 en France. Voici ce qui attend tous les jeunes de 16 ans dans les années à venir.
Réjouissez-vous, 15 jours en internat, puis 15 autres en salle de classe. Le gouvernement annoncera aujourd'hui les contours du futur service national universel. Il durera donc un mois. Il sera obligatoire et n'aura pas grand-chose de militaire. Les jeunes seront formés à l'éducation civique ou au secourisme. Et malgré la consultation que le gouvernement a pris soin d'annoncer en même temps que ce nouveau service, tous les jeunes ne sautent pas forcément de joie. Écoutez ce qu'en dit le président de la FAGE, l'association étudiante, Jimmy Losfeld. Il est au micro de Sonia Bourhan.
Je partage l'objectif que se fixe l'exécutif sur le SNU, à savoir créer plus de mixité sociale pour les jeunes, participer à l'émancipation citoyenne. C'est des choses qui sont effectivement importantes, mais d'une part, ce n'est pas un service militaire ou service national qui pourra régler ce problème-là, c'est l'éducation nationale, et c'est un vrai aveu d'échec que de le faire à côté de l'école, encadré par des militaires pour une partie, mais surtout, 3 milliards d'euros minimum pour le dispositif, pour un mois obligatoire. Je vois pas comment, en un mois, on va pouvoir régler ce que l'école n'a réussi pas à faire en tant d'années obligatoires. Et je suis pas convaincu que les contribuables français sont prêts à participer à financer à hauteur de 3 milliards d'euros par an un dispositif d'un mois obligatoire dont on n'est pas sûr du tout de sa réussite.
À la SNCF, c'est confirmé, la grève jouera bien les prolongations pour les premiers grands départs de l'été, vendredi 6 et samedi 7 juillet, coup d'envoi des vacances scolaires. Deux nouvelles journées de grève à l'appel de la CGT et de Sudrail, alors que les deux autres syndicats ont en revanche décidé de quitter le mouvement. Prolongation inutile, selon le numéro 2 de la SNCF, Mathias Vichra, qui promet de tout faire pour limiter les perturbations.
Maintenant que la phase législative est terminée, ce qui est devant nous, c'est une phase d'entreprise et une phase de branche. Et ces phases d'entreprise et de branche, les décisions ne seront pas prises avant 6 mois d'un côté, 18 mois de l'autre. Donc faire grève pendant l'été alors qu'aucune décision ne sera prise peut paraître décalé. C'est la première chose. La deuxième chose, le front syndical intersyndical est terminé. Et donc nous avons la CGT et Sud qui vont faire grève les 6 et le 7. Nous avons deux engagements par rapport à cela. Le premier, c'est d'avoir un haut niveau de service, comme nous l'avons prouvé, comme nous le prouvons aujourd'hui, par exemple, où il y a plus de 80% des TGV qui roulent une journée de grève, alors que c'était 13% au début de la grève le 13 avril. Donc un haut niveau de service, quoi qu'il advienne, le 6 et le 7. Et en même temps, puisqu'il y aura évidemment des soucis, un traitement personnalisé pour chaque client avec des SMS et des mails qui permettront d'anticiper les éventuels problèmes. Donc traitement personnalisé et haut niveau de service sont nos deux engagements.
Mathias Vichra, invité de nos confrères de France Info. De plus en plus de logements vides en France, constat de l'INSEE dans son dernier rapport. La France compte 2 800 000 logements vacants, alors même que des millions de Français n'arrivent pas à se loger. C'est à Avignon et à Douai qu'on en trouve le plus. 14% des logements y sont vides, 13% à Nice et 8% à Paris. Et puis c'est le coup d'envoi des soldes d'été en magasin et sur internet. Ils vont durer 6 semaines. C'est la dernière fois d'ailleurs qu'ils seront aussi longs, car dès l'année prochaine, ce sera 4 semaines seulement de promo.
Il est 8h08 quand les Bœufs Carottes lancent l'opération Transparence.
L'exercice est inédit et on le doit à la police des polices, l'IGPN. Dans son dernier rapport, elle fait le bilan d'un an d'intervention des forces de l'ordre et pour la première fois, elle donne le chiffre des blessés et des tués lors de ces opérations, ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'il s'agit forcément de bavures. 14 morts en un an et une centaine de blessés. Mais l'autre enseignement, peut-être y a-t-il d'ailleurs un lien, c'est que les policiers et les gendarmes tirent de plus en plus souvent lorsqu'ils sont en opération. Sophie Parmentier.
Le nombre de tirs avec le pistolet Sig Sauer, l'arme de service des policiers, a bondi de 54% l'an dernier. Au total, ce sont près de 400 tirs. Beaucoup ont visé les véhicules de fuyards lors de contrôles routiers, explique Marie-France Monéger, la directrice de l'inspection générale de la police nationale.
On a de plus en plus de conducteurs qui veulent échapper à des contrôles de police et qui prennent des risques inconsidéré pour échapper à ces contrôles de police, quelquefois pour des raisons qui sont des raisons d'une banalité effrayante, pas de permis de conduire, pas d'assurance ou usage de stup ou d'alcool. Et dans la quasi-totalité des affaires, la légitime défense a été retenue pour les policiers.
Les policiers utilisent aussi de plus en plus le pistolet à impulsion électrique, très dissuasif pour désamorcer les conflits, selon la patronne de l'IGPN, qui a également annoncé hier un recensement inédit, celui des victimes lors d'opérations policières. Il y a eu 14 morts et une centaine de blessés en un an, selon ces chiffres jusqu'alors jamais communiqués. Cela ne veut absolument pas dire que ce sont des victimes de bavure, précise bien la chef de la police des polices. Elle veut faire de ce recensement encore parcellaire un des grands chantiers de 2018.
Et sur les 14 personnes décédées lors de ces opérations de police ou de gendarmerie, on compte plusieurs suicides, mais aussi deux terroristes abattus alors qu'ils venaient de passer à l'acte. Un coup de filet à Lille après la mort d'un homme toxicomane qui avait été roué de coups. C'était en mai dernier. La victime avait été prise à partie par un groupe, puis battue à mort en pleine rue. Hier, 10 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Elles sont en garde à à vue. Des insultes, des menaces, des violences physiques. C'est un sondage IFOP pour l'Observatoire de l'homophobie qui nous l'indique ce matin. Plus de la moitié des personnes LGBT affirment avoir été victimes d'au moins une agression homophobe. C'est le cas de ce jeune homme de 23 ans, Lies Alouane. Il habite à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Et malgré les plaintes à répétition, il en a déjà déposé une quinzaine. Sa vie est un enfer depuis plus d'un an.
Depuis mon coming out, je vis dans l'oppression. Clairement, je suis agressé 3 fois par semaine au minimum. C'est des injures homophobes, des agressions, on me crache sur le visage, on me lance des bouteilles de bière. Je suis dans le stress constamment, je suis dans une anxiété constante. J'ai développé un TOC, je regarde tout le temps derrière moi. Pour moi, Gennevilliers et la banlieue, quoi, c'est des no-go zones. Des no-go zones pour moi et pour les personnes LGBT. Et j'accepte pas. Là, je suis obligé de partir de Gennevilliers, ma ville de mon enfance, à contre-cœur. Mais je suis obligé pour ma sécurité. Et je reviendrai. Je reviendrai plus fort.
Témoignage recueilli par Mélanie Delaunay. Dernier chiffre sur cette étude IFOP. 40% des personnes interrogées renoncent à se tenir par la main ou à s'embrasser dans la rue par crainte de ces violences.
8h11, c'est une forme de pollution du quotidien.
Et qui ne s'arrange pas si l'on en croit l'UFC Que Choisir. Il y a de plus en plus de pubs dans nos boîtes aux lettres. Près de 2,5 kg par an, estime l'association. Pour dire les choses autrement, ça représente un quart du papier consommé chaque année en France. Rosalie Lafarge.
Du salon de jardin dernier cri aux promos du mois du supermarché voisin, en passant par le menu du traiteur chinois du bout de la rue, il est facile d'être rapidement noyé sous les prospectus, regrette Nicolas Mouchnino, chargé de mission énergie et environnement à l'UFC Que Choisir.
En moyenne, sur un mois, c'est à peu près 60 prospectus publicitaires que reçoivent les consommateurs. Ça représente un peu plus de 2,3 kilos, ce qui est extrêmement conséquent.
C'est surtout 15% de plus en 15 ans, date des premières mesures censées réduire ce volume, et alors que de plus en plus de boîtes aux lettres affichent l'autocollant Stop Pub, un gâchis environnemental qui, pour couronner le tout, nous coûte cher, selon l'association.
Pour un ménage avec 4 personnes dans un foyer, ça représente 200 euros par an, mais que ne voit pas le consommateur, il est payé indirectement à travers ses achats ou à travers sa taxe sur les ordures ménagères ou à travers l'éco-contribution.
L'UFC Que Choisir demande au pouvoir public de pénaliser la pratique du prospectus pour forcer les professionnels à se tourner vers de la publicité ciblée ou par Internet. L'association réclame aussi des sanctions pour ceux qui ne respectent pas le stop pub et vous glissent envers et contre tout l'indésirable papier destiné directement à la poubelle et pas toujours celle du recyclage.
Il est 8h13, du lourd sur la route de l'équipe de France.
Voilà les bleus prévenus, ce sera l'Argentine en 8e de finale. Les coéquipiers de Messi se sont qualifiés au bout du suspense hier soir en battant le Nigeria 2-1. Qualification arrachée à 5 minutes de la fin du match. Les commentateurs argentins y ont laissé leur voix.
Cubo para Mercado, 3 adentro del área. Atención, balón para Agüero, aquí está Mesa. Porque esto nos contagia, porque toda una selección de rodillas se abraza, lo celebra, lo grita.
Voilà donc pour le Jacques Vendroux argentin, le but de l'Argentine qui propulse le pays en 8e de finale face à la France. Ce sera samedi 16h. Bonjour Xavier Monferrand.
Dobry dzień, Marc.
Si l'Argentine s'est qualifiée au bout du suspense pour la France, c'était tout au bout de l'ennui à l'issue d'un match complètement nul, 0-0 face au Danemark.
Oui Marc, si vous me le permettez, j'ai une pensée ce matin pour tous ceux qui ont posé une journée hier parce que les Bleus jouent, on peut pas rater ça. Pour tous ceux qui ont quitté le travail bien plus tôt que d'habitude en se disant bah, c'est pour la bonne cause, il y a les Bleus. Pour tous ceux qui ont pris une nounou qui n'en ont pas forcément les moyens, mais la France joue en Coupe du Monde. Tous ceux qui ont négocié avec la crèche pour aller chercher le petit ou la petite un peu plus tard. Mais oui, mais comprenez-moi, il y a le match des Bleus. Une pensée pour toutes ces réunions de dernière minute qui n'en étaient pas, pour voir les Bleus en famille, entre amis, dans un bar, entourés d'inconnus qui n'ont jamais été aussi proches. Mais surtout, une pensée pour tous ceux qui ont cassé leur tirelire pour venir jusqu'à Moscou soutenir les Bleus. Ils étaient quelques milliers pour voir ça, c'est une parodie de football, voir 22 joueurs français et danois bafouer leur passion pour un résultat qui les arrangeait, bafouer le football, bafouer le mythique Stade Loujniki qui les a copieusement sifflés. Dans ce match, le pragmatisme l'a emporté sur le romantisme, l'a pulvérisé. Mais bon, l'essentiel, c'était la première place pour Antoine Griezmann.
Bah, on est en 8e et on est premier de notre groupe. Voilà, ça peut plaire ou non, mais c'est la réalité. C'est vrai que c'était pas très beau à voir de la tribune ou à la télé. Donc voilà, je suis désolé pour les gens qui attendent beaucoup de buts ou des beaux gestes. C'était pas le cas aujourd'hui. Ils voulaient pas faire énormément d'efforts et bah nous non plus. Donc voilà, c'était deux équipes avec le match nul qui étaient contentes.
Et voilà, pas d'efforts ni d'un côté ni de l'autre. Ça a le mérite d'être clair tout ça devant près de 80 000 spectateurs et des millions devant leur poste.
La bonne nouvelle, Xavier, avant d'affronter l'Argentine en huitième de finale, c'est que Didier Deschamps y voit un peu plus clair.
Et oui, parce que c'était le bal des coiffeurs hein, face aux Danois. 6 changements dans l'once de départ des Bleus et les 6 qui sont rentrés n'ont rien marqué, ni des buts, ni des points, encore moins les esprits. Pas sûr qu'on les revoie dans ce mondial et surtout contre l'Argentine du roi Lionel Messi au prochain tour. Bal et masque maintenant. Impossible de se cacher derrière les « on monte en puissance », notre adversaire n'avait pas envie, maintenant c'est pour de vrai. Les Bleus vont devoir montrer leur vrai visage, montrer de quoi ils sont capables, pas de faux semblants. Cette fois la lumière sera crue et la sanction sera terrible.
Voilà, et la bonne nouvelle c'est qu'il n'y aura pas besoin de prendre une nounou ou de sortir plus tôt du travail puisque c'est samedi à 16h. Merci beaucoup Xavier, vous embrassez toute l'équipe de Radio France et de France Inter en Russie. On suivra aujourd'hui le Brésil et l'Allemagne qui vont tenter également de poursuivre l'aventure.
Merci Marc Fauvel.